Bon, je me risque, mais j'ai peur que mes questions ne soient pas très intelligentes. Dans la mesure où...
C'est celle-là qui n'était pas intelligente.
Ça, c'était une observation préalable. dans la mesure où, d'abord, j'ai été très intéressée, j'imagine comme d'autres, par plein d'aspects que vous avez présentés. Dommage qu'on n'ait pas le temps de les approfondir. Mais il y a des choses, peut-être, que je n'ai pas bien compris, donc je voudrais vérifier. Donc la première question, elle tourne autour de la révolution anthropologique engendrée par ces outils numériques. Et la deuxième question, par rapport à l'outil qui prolongeait ou améliorait les forces humaines et donc la situation des outils numériques par rapport à cet aspect de l'outil. Alors sur la révolution anthropologique, j'ai noté, peut-être mal, vous me rectifierez, c'est la première fois que l'homme est confronté à l'impossibilité matérielle d'accéder directement à sa mémoire. Moi, je me suis demandé à ce moment-là si ça n'avait pas été le cas quand même précédemment dans les sociétés où les sorciers, les hommes médecine ou plus tard les psychanalystes servaient d'intermédiaires entre la mémoire individuelle pas forcément accessible par l'individu et par conséquent également la mémoire collective quand ils interviennent dans une... enfin quand ils sont pris dans une société. Alors, je ne suis pas du tout anthropologue, juste j'ai un tout petit peu lu Lévi-Strauss, donc j'ai très peu de connaissances dans le domaine. Mais il me semble qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire, ou même actuellement, dans l'histoire contemporaine, où l'homme a besoin d'un média pour accéder à sa mémoire individuelle ou collective. Voilà, peut-être je laisse cette première question, je vous laisse répondre, et
oui,
la deuxième après.
Là, on est sur quelque chose de lourd. Je crois qu'il y a deux choses, il me semble, deux éléments de réflexion qu'on pourrait placer. C'est, d'une part, se placer sur la question de l'écriture. C'est-à-dire que, dans l'exemple que vous donnez, quand il s'agit, par exemple, d'une pratique chamanique ou une pratique analytique, peu importe, on pourrait donner une série d'exemples de cet ordre-là, on a, alors je vais le dire avec des termes qui sont distincts, on a un médiateur, un médium, on a en tout cas un personnage, comme disait l'autre qui ne personnage, donc un personnage qui est à l'articulation d'une mémoire, dans le cadre d'un échange qui est un échange en direct, donc en fait qui est dans une interaction, et c'est une interaction qui est d'ordre oral. Sa validité est pensable dans ce contexte et dans cette oralité. La très grande différence avec tout ce que nous venons de voir, c'est que nous nous situons autour et dans des technologies qui ont trait à cette technologie de l'intellect essentielle qu'est l'écriture. Laquelle écriture peut, c'est probablement ce qui fait ça, la révolution anthropologique dont on parlait, qui va évoquer un certain nombre de points par rapport à votre question, c'est quoi ? C'est le fait que là, l'homme invente quelque chose qui lui permet de transcender, en fait, complètement, enfin, non, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, de subsumer, peut-être, non, en tout cas, de sortir, il faut sortir de ce vocabulaire, quand même, de s'émanciper, merci, de s'émanciper, oui, c'est ça, c'est très bien ça, qui lui permet de s'émanciper de cette situation d'oralité, d'oralisation, et qui lui permet de s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, c'est une technologie, l'écriture, que l'homme invente, et qui lui permet, mort, de parler au vivant, ou vivant, de parler lorsqu'il sera mort. Il s'inscrit dans le temps. Et puis, d'ici, parler à, le parler entre guillemets, on s'entend bien, hein, parler à l'ailleurs, au plus loin, c'est-à-dire au bout du royaume, je peux envoyer ma missive, et je peux avoir ce que j'ai besoin. Or, je ne peux pas, en tant qu'individu parlant, parler aussi fort au-dessus des sept montagnes qui vont entre Ur et Arata, à Sumer par exemple. Il me faut un messager qui porte quelque chose, qui est précisément cette tablette où il y a l'écriture. Et donc l'écriture est une technologie absolument étonnante qui permet à l'homme de s'émanciper de sa situation d'oralité coincé dans la temporalité et dans l'espace dans lequel il est. Elle est géniale, cette technique. Elle s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans l'espace. Je m'émancipe du temps et je m'émancipe de l'espace. Et donc ça, c'est quelque chose qui est radical. C'est, pour le coup, une transformation anthropologique fondamentale pour l'homme. Et alors, tous les objets et dispositifs techniques dont j'ai parlé s'inscrivent dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans l'histoire de l'écriture et non pas de l'oralité. Je crois que les textes les plus intéressants, il y a une très très grande littérature, mais allez voir Goudy, sur, notamment entre l'oral et l'écrit, Jacques Goudy, qui est une petite merveille d'intelligence et en plus de simplicité, ce qui ne gâche rien. C'est un grand bonhomme, hein, vraiment un grand bonhomme. Humainement en plus, enfin, c'est souvent comme ça d'ailleurs, ça ne s'invente pas. C'est un grand bonhomme et il continue à déplacer les champs sur lesquels il est. Puisqu'il parle de l'histoire en ce moment, le dernier bouquin qu'il a fait, qui vient de sortir. C'est un de ceux qui a le mieux fait et expliqué et articulé ce passage entre l'oral et l'écrit, et bien situé. Alors, Glasner dit quelque chose d'intéressant aussi à la fin de son livre « Écrire à Sumer », où en tant que... Alors là, linguiste, et là, j'allais dire c'est une discipline qui parle, où il définit l'écriture de manière très très précise. Où il l'a défini en fonction de la langue, donc pour dégager tous les autres langages. Bon. Moi, j'ai une acception qui est un peu plus large parce que je pense, je parle d'outils d'écriture là et je ne m'arrête pas à la langue. Enfin, je convoque des langages. Mais en tout cas, pour répondre de manière plus précise sur le contenu même de votre interrogation, c'est effectivement la distinction entre l'oral et l'écrit, et la situation d'interaction que nous avons, par exemple, en ce moment, à l'oral, qui, du coup, si effectivement c'est enregistré pour passer ailleurs, est radicalement distincte, parce que mon interlocuteur, je ne l'ai plus. Et là, je suis dans une transformation médiatique qui ne relève plus de l'oralité. D'accord ? Alors la deuxième question.
Alors la deuxième question, la réponse sera peut-être plus simple. J'ai noté que les outils techniques, technologiques antérieurs aux outils numériques, électroniques, étaient entre autres, pas seulement évidemment, des prolongations de la main. Vous avez donné l'exemple du marteau. Et j'ai noté également l'outil numérique est en soi un ensemble d'outils, donc c'est ce qui représente sa révolution. Qui permet de faire fonctionner l'outil. Et je me suis demandé si quand même on n'avait pas connu cette situation encore antérieurement. Et j'avais pensé à la roue du moulin. Le moulin ne peut pas tourner sans la roue, qui elle-même ne peut pas sans l'eau, et donc sans un système d'abondement de l'eau, etc. Ouais. Et donc l'outil au service de l'outil, ça m'a D'accord. posé une interrogation par rapport à ça.
Alors, je crois qu'en fait, là aussi, on peut distinguer des choses de manière assez claire. C'est dans le dispositif du moulin, on est dans la même logique. C'est-à-dire, en fait, on est dans une logique qui a sa logique mécanique. Hein, ce sont les lois morphogénétiques liées au dispositif technique. Il faudrait faire intervenir des historiens des techniques de ce point de vue-là. C'est vraiment très intéressant. Et le moulin, en fait, la roue est constitutive du moulin. Le moulin n'existe pas sans sa roue, d'accord. Bon, l'action qui est déployée, qui est une action de transformation d'énergie, qui est une transformation d'énergie en fait linéaire en énergie circulaire, qui va en fait se transformer en différentes variantes en fonction du type de moulin qu'on va utiliser. Je pense à un moulin à papier qui va avoir une énergie verticale, ou un moulin avec une roue qui aura une énergie circulaire, etc. On est dans de la transformation d'énergie mécanique. Dans le cas évoqué, hydraulique et mécanique d'ailleurs, dans les deux temps, qu'on peut avoir éolienne, et bon, en tout cas on est dans le même type de transformation de force et d'énergie qui vont effectivement être travaillées. Bien. Dans le deuxième cas, qui est le cas qui nous occupe, on est avec des outils qui convoquent des systèmes qui ne se croisaient pas encore. Et qui sont totalement indispensables au bon fonctionnement du dispositif dans sa globalité. Un, le support technique en tant que tel. Deux, la dimension électrique, électronique. Donc tous les dispositifs ensuite de logiciels. Et là où vous allez faire rentrer des logiques de transformation qui sont qui n'étaient pas encore croisés jusqu'à présent, les langages avec la technique électrique. Ce n'était pas pensé en tant que tel jusqu'à présent. Et ce croisement, c'est pour ça que je parle de sémiotechnique. Et on ne peut pas faire autrement. Et c'est une transformation, effectivement, de savoirs qui sont des savoirs culturels et donc qui sont plus complexes, effectivement, qui sont engrammés dans la machine et que nous n'avions pas encore, que l'homme n'avait encore pas transformé. Alors, quand je parle d'un architecte et que je dis qu'il s'agit d'une technique singulière, l'architecte, c'est le logiciel, c'est-à-dire, en fait, il est à la croisée de la logique, de l'informatique, donc la mathématique, de la logique, de l'informatique, la mathématique, de la linguistique, du langage. Donc vous voyez que ça, c'est des croisements qui sont des croisements assez très récents dans l'histoire humaine. Et ça n'est pas envisageable sans le substrat technique qui convoque effectivement l'électricité, par exemple. Donc là, effectivement, on est dans des registres de complexité qui sont d'une toute autre nature. Voilà. Est-ce que ça répond à peu près à votre question ?
Pardon. Moi aussi, j'ai deux questions. J'ai été très intéressée par toute votre mise en perspective de cette espèce de leurre qu'on a sur la dématérialisation. Il n'y aurait pas de support, tout serait vierge pour les élèves quand ils travaillent sur écran, il n'y aurait pas de cadre. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a un cadre préconstruit, que le logiciel de traitement de texte ou le blog ou le wiki ou tout ce qu'on peut utiliser est un modèle éditorial. J'aurais voulu que vous approfondissiez cette notion d'architecte en nous expliquant si pour vous c'est structurant de modèles d'écriture déjà préexistants ou si ça va conduire à une espèce d'hybridation vers de nouvelles formes d'écriture, parce que c'est toujours ce qu'on... Enfin, c'est là où se jouent, je crois, beaucoup de fantasmes. Hein. On a peur d'accoucher de monstres prométhéens, enfin, je sais pas, pour filer les métaphores. Et donc, est-ce qu'il serait possible de revenir sur ce qui est la part du modèle éditorial traditionnel ou du nouveau ? Voilà.
Alors, on a une heure de plus ? Bon, il est toujours 8. Ah, bah non, on est passé à 8h20. On a gagné 5 minutes hein, quand même. On a usé 5 minutes. C'est quand même. Elle est bien cette horloge. Alors, c'est un peu. Enfin, dans le prolongement des travaux qu'on a présentés la dernière fois à la BNF notamment, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a énormément de choses qui s'ouvrent de manière structurante. Alors, d'une part, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les quatre temps sur les écrans que je vous ai fait voir, il y a le temps d'ouverture du logiciel dédié à la tâche que je veux accomplir. J'ai envie de produire de la musique, de dessiner, d'écrire, de faire n'importe quelle tâche. Bien. Eh bien, pour travailler sur un média informatisé, j'ai besoin de ce fameux logiciel, cette notion de logiciel. Logiciel, c'est quoi ? C'est un outil qui est, ce qu'on vient de dire, à la croisée des langages, de la technique et de l'informatique, qui est à la croisée des savoirs. C'est-à-dire, en fait, qui est chargé, et c'est quelque chose d'assez compliqué quand même, hein, qui est vachement intéressant pour nous, hein, qui est chargé d'une histoire et qui a été constitué par des équipes nombreuses, hein, d'informaticiens, d'autres, qui se sont fait une représentation de la tâche à accomplir, qui se sont fait une représentation des usages, des pratiques de la dite tâche, et qui ont décomposé les tâches en question, et qui se sont dit, pour faire ça, nous avons besoin de... Mais ça tombe pas de n'importe où. Ça tombe de quoi ? Ça sort d'où ? Ça sourd d'où ? Pour rester dans la métaphore liquide. Ça sourd, en fait, de la pratique, des usages, de la culture. Alors, deux exemples pour qu'on comprenne ça. Pour expliquer deux temps importants de l'arrivée de la micro-informatique... Dans le champ social, j'avais utilisé la dernière fois cette idée, en fait, que je crois vraiment très intéressante, en fait, hein, du fait que les micro-ordinateurs sont arrivés dans l'espace social par le biais des circuits de consommation de masse, c'est-à-dire en fait, j'allais dire les grandes surfaces, etc. C'est-à-dire en fait les circuits de je cherche le terme de diffusion de comment ça s'appelle ? Ouais, de grande distribution, merci. Enfin, en fait, par le biais de la grande distribution. C'est-à-dire, comment ? Par exemple. Et en fait, ça a emprunté le chemin qu'avait emprunté l'audiovisuel grand public, c'est-à-dire l'audiovisuel de masse. Donc, c'est vraiment les circuits de la consommation de masse. Alors, empruntant ces chemins, ces outils, en fait, ont emprunté, du coup, à un certain nombre de choses. Je vous ferai éventuellement, si on a le temps, une analyse sur ça d'un point de vue sémiotique. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'objets visuels que vous avez sur vos écrans qui sont originaires de là. C'est-à-dire, en fait, regardez tous les dits, entre guillemets, boutons. Je reste dans la métaphore, toujours. Hein. Enfin, en tout cas, avec le recul critique de la métaphore que nous utilisons au quotidien. Et de tous les objets qui nous permettent d'avoir accès, qui nous permettent de manipuler ces objets, ces dispositifs, eh bien, ce sont des signes qui sont des signes qui permettent d'agir, ce que on va arriver au signe passeur éventuellement tout à l'heure, qui sont des signes en fait empruntés à la distribution de masse et à l'audiovisuel notamment qui avait déjà emprunté ces circuits. Alors on est là avec des objets qui arrivent dans l'espace collectif et qui sont chargés d'un imaginaire, alors dans l'usage, qui sont chargés d'un imaginaire lorsque les producteurs de logiciels ont pensé qu'il fallait faire de telle ou telle ou telle ou telle façon. Les usagers se trouvent devant ça, non pas d'accompagnement pédagogique, ont un accompagnement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui passe par le biais de la publicité, du marketing, etc., et s'approprient ces outils. Ils découvrent dans les années 70-80 le fameux traitement de texte. Qu'est-ce qu'il découvre ? La première chose qu'il découvre, c'est qu'un texte a une image, ce que j'ai appelé l'image du texte. Et il y a une redécouverte par les usagers d'un impensé radical de la communication qui est l'image du texte. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens s'explosent avec cette histoire-là et produisent une série de textes tous azimuts avec des formes parce qu'il y a une espèce de libération du geste de l'image du texte et on arrive à des productions hallucinante, très drôle, marrante, etc., totalement illisible, enfin, etc. Bon. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, c'est la redécouverte joyeuse, enfin, vraiment, au sens, dans ce sens-là, de l'image du texte. Voilà, ben on s'amuse avec. Bon, très bien, pourquoi pas. Bon. Ce qu'on voit dans ce phénomène, c'est quoi ? C'est que pendant 5 siècles de typographie, les typographes, qui sont des gens de métier, ont capturé le rapport au pouvoir du texte, au pouvoir donné à voir et au pouvoir lire le texte. Et donc, l'usager n'y avait pas accès. Il en était complètement dépossédé. Donc, on pourra dire à un moment, ah oui, super, le traitement de texte et la micro-informatique grand public a permis une libération et en tout cas une prise de conscience. Mais en revanche, ce qu'on ne pense pas d'ordinaire, c'est que ces 5 siècles d'élaboration ont également été 5 siècles d'élaboration. Alors j'exagère parce qu'en fait, ça remonte, il faudrait remonter au 12e, 13e siècle. Bon, donc là, je suis un peu cavalier. Bon, bon en tout cas, ces 5 siècles d'écriture industrielle, pour être plus précis, pour le coup, au niveau de l'histoire de l'écriture, ont permis quoi ? Une très grande finesse et un très grand savoir sur une question fondamentale qui est la question de la lisibilité du texte. Et ça n'a pas été pensé dans le cadre des logiciels. Parce que, ben, en fait, on a complètement impensé cette affaire-là et on a supposé que finalement l'usager allait se charger. Ben, l'usager se voit chargé de 5 siècles d'histoire et de pratique de métier. Comment voulez-vous qu'il réagisse par rapport à ça ? Il va jouer. Il a raison de jouer. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer par rapport à Internet. Alors, avec des évolutions, bien sûr, ça va très très vite, hein, mais c'est deux grands temps, deux grands mouvements que je vous donne à lire et à entendre. C'est dans les années 80, 90, 90-2000, on arrive là à autre chose, qui est non plus uniquement l'image du texte, mais la dimension éditoriale du texte, sa circulation dans l'espace social, et Internet ouvre ce champ extraordinaire de « je prends mon texte, je l'écris, je le rédige et je le donne à lire à l'autre. » Avec toutes les toutes les questions que ça soulève. Question très intéressante. On est confronté à ça en ce moment au niveau de l'actualité avec la diffusion sur Wikileaks des messages de la diplomatie américaine, par exemple. Regardez, c'est l'exemple type de ce phénomène. C'est-à-dire que des procédures de circulation restreint, plus ou moins restreint, complètement restreint, pas du tout restreint, de diffusion, qui font partie de l'histoire, des pratiques, etc., de la construction de l'information et de sa très grande hiérarchisation et sa très grande complexité au sein de l'espace social, là, est complètement explosée, juste parce qu'il y a possibilité de faire clic sur un dispositif. J'exagère, parce qu'il n'y a pas que cette possibilité. Il y a une action politique en amont, évidemment. Bon, quand même pas être complètement naïf. Mais vous voyez, en fait, ça, c'est une ouverture qui est une ouverture que l'on n'avait pas. Alors, la structure, pour revenir à plus précisément à la question maintenant, l'architecte, c'est quoi ? C'est c'est pas un objet, en fait, c'est un dispositif, et donc il a une dynamique. Il n'est pas clos, hein, ça c'est quelque chose d'important. Il permet, en fait, je vais reprendre parce que quand même, Foucault est pas mal là-dessus, de ce point de vue-là. Il nous aide d'une bonne aide. Le logiciel crée les conditions de possibilité de l'écriture. Ces conditions de possibilité sont à l'articulation de plusieurs cultures, ce que je disais à l'instant, donc scientifique, mathématique, technique, informatique, etc. Et d'autre part, eh bien en fait, des cultures liées à la thématique dédiée du logiciel. C'est-à-dire que si je suis sur un logiciel de dessin industriel, sur un logiciel de médical ou sur un logiciel d'écriture, j'aurais pas les mêmes nécessités de connaissances. Et là, vous voyez qu'on est vraiment à la croisée, en fait, à la croisée des cultures, au vrai sens du terme. À l'époque, pour un article, j'avais utilisé la métaphore de la place des trois cultures à Mexico, qui est effectivement bon. Et en fait, on est là. On est sur la place des trois cultures à Mexico et on a la rencontre des cultures. Eh bien, la très grande puissance de ces dispositifs techniques, c'est de se faire se rencontrer. Alors, les cultures. Alors, le problème, enfin, les problèmes, c'est pas des problèmes, ça soulève un certain nombre de questions. C'est qu'effectivement, je ne peux plus maintenant écrire en dehors de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'actions qui me sont permises, d'autres qui ne me le sont pas. Des possibilités qui sont ouvertes que je n'avais pas, d'autres que je ne peux pas agir, au sens propre du terme. Regardez, dans la pratique que vous avez, lorsque vous êtes en train de taper sur votre micro portable, il y a des tas de choses que vous ne pouvez, ne savez et ne pourrez pas faire. Et donc, il y a la structuration mentale, je vais jusque-là, hein, ça, puisque maintenant on sait ça, hein, d'un point de vue cognitif, on est en transformation radicale. Enfin, radicale, faut pas exagérer non plus, on va pas. Enfin, en tout cas, il y a une transformation qui se met en place. Pourquoi ? Ben parce qu'on sait, alors ça c'est l'avantage de ce que nos collègues neurologues notamment nous apportent. Les travaux de ce point de vue-là ont énormément évolué ces 15 dernières années, où on commence à avoir un certain nombre de pistes de travail ou à croiser qui deviennent très 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 intéressantes, où on n'est plus dans une neurologie complètement autiste et où en fait le croisement avec la culture devient pertinent. Et donc là où on a des espaces d'échange possibles qui sont vraiment très 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 positifs, me semble-t-il, et où on s'aperçoit effectivement que la pratique d'écriture à la main, ce que disait Barthes, je suis en train d'étoiler mon texte, dans la compréhension du geste intellectuel que je suis en train d'élaborer lorsque je suis élève, étudiant ou autre, et que je suis en train de griffonner dans ma marge, comme ça, rêvant, ce que j'explique aux étudiants des premiers cours sur lesquels je travaille, j'adore ça en fait. Les sortir complètement parce que je leur dis, mais vous m'écoutez pas. Et alors ça crée un temps. Vous êtes en train de dessiner. Si vous êtes en train d'écouter autrement, vous êtes en train de vous approprier un espace qui est le vôtre. Je dis, ne lâchez pas ça. Vous êtes en train de produire un chemin et non pas nécessairement un objet. Et c'est ça le plus important, à la fois intellectuellement et socialement, je dirais. C'est en fait dans le geste de rêverie griffonnante qui va être un élève qui est en train de... Ouais, il rêvasse, et alors c'est structurant pour lui. Il est en train de rêvasser, en train d'élaborer un quelque chose qui, en fait, il est dans une révélation. Soit il est complètement déconnecté, ce que je peux comprendre parfaitement. Soit il est dans ce chemin intermédiaire où il écoute, il y a des choses qui entrent, il élabore son propre chemin, il est en train de se construire. C'est magique, ça. C'est un moment à privilégier, c'est un moment à nourrir et à accompagner. Eh bien, en fait, dans ce griffonnement qu'il y a à la main et au corps, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, de ce geste qu'il est en train de délier, il est en train d'inscrire, c'est ça le plus important, un geste mémoriel. Et sa prise de notes, combien de fois vous relisez vos notes? Question à 100 balles. C'est pas une évaluation, on s'entend bien. Hein. Et combien de fois relit-on ces notes? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le chemin d'inscription qui a fait que nous avons transformé l'information, la situation dans laquelle nous étions, à travers notre propre mode de fonctionnement. Et il n'y en a pas un pareil. Et c'est ça qui fait aussi notre difficulté, notre richesse. Il n'y en a pas un pareil. Et donc, on va soit griffonner, soit être extrêmement précis. Voilà. On a chacun ces modalités de prise de notes qui vont nous permettre d'élaborer. Et en fait, c'est le chemin fait entre le geste intellectuel de la scription jusqu'à l'intellection, et les deux sont intimement liés, je ne les distends pas, qui fera... Et donc, lorsque je vais taper sur mon clavier une prise de note d'une autre nature, il y a quelque chose que je n'aurai pas qui sera distinct. Je ne veux pas dire par là que c'est complètement nul, inintéressant, etc. Au contraire, il y a une possibilité. Quand je suis dans le cas, il y a des possibilités qui sont permises, qui ne sont pas de même nature. Voilà, c'est des fonctions distinctes. Simplement ne pas... Alors, pour revenir à mon architecte, il est clair qu'il va conditionner ma pratique d'écriture-lecture. Bon, Valérie-Jeanne Pierrier est intervenue l'autre jour de manière précise là-dessus, je ne développerai pas, mais il est indispensable de bien comprendre qu'effectivement je vais m'inscrire dans les cadres précisément instituants du dispositif technique dans lequel je vais commencer à œuvrer. Mais réfléchissons un peu et allons jusqu'au bout de la logique. Ça n'est pas nouveau. Sauf que ces apprentissages-là ne sont pas pensés en tant que tels. Mais quand un enfant est en train de s'inscrire, par exemple, pensons à ce mythe de la dissertation. Lorsque je suis en train de penser dissertation, je ne pense pas réflexion. Je suis A, B, C, hop. 3 dans 3. Et ça roule, et ça marche, et c'est efficace, etc. Je pense dissertation. Mais regardez un étudiant étranger qui arrive à qui on demande une dissertation, il est paumé. Il n'a pas cette logique. Oui. Mais ça, c'est quoi? Et ça, c'est un apprentissage lié à une culture, lié à une histoire, etc. Eh bien, le cadre instituant de mon acte d'écriture, il se situe dans ce... Il est là. Eh bien, je pourrais très bien dire que la dissertation est un architecte d'un type de production écrite. C'est parfaitement valide. C'est très très clair, ça. De la même manière que Roubaud, parlant du sens formel, disait, si j'utilise telle forme poétique, eh bien, je vais être, eh bien, le sonnet, comme l'a redit Queneau de manière très explicite, puisqu'il fait partie de ceux qui lui ont redonné un souffle au XXe siècle, qui était quand même passablement tombé en désuétude après le XIXe, eh bien, le sonnet qui est un architecte, au sens propre du terme. Et donc, ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, elle est d'ordre instituante au niveau de la pratique quotidienne d'écriture, qui est une pratique quotidienne qui est complètement marquée dans le dispositif technique, le dispositif sémiotique et le dispositif d'usage. Et donc, c'est la concaténation. C'est pas tout à fait le mot qu'il faudrait. C'est l'interdépendance. Voilà, c'est plus juste. L'interdépendance de l'ensemble de ces dynamiques qui fait qu'effectivement c'est un dispositif plus complexe. Oui, Claude.
Donc tu as parlé à partir du traitement de texte, est aussi une liberté de nier la culture antérieure de la lisibilité de la page.
D'accord.
Et j'ai déjà entendu dans mon entourage, qu'il soit professionnel ou familial, des grandes discussions sur il faut faire comme ça pour envoyer ou pour mettre en forme tel message, qui sont parfois qui exprime une norme qui est en contradiction avec ce qu'est l'héritage culturel, justement, de l'expertise du livre, par exemple. D'accord. Ça, c'est une première chose. Donc, ça ouvre, évidemment, une sphère d'intervention pour le pédagogue, hein, et le didacticien. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce que tu disais à l'instant, ça y est, l'idée était en train de m'échapper, mais ça fait rien. Je vais la retrouver.
C'est pas grave.
Je l'ai pas prise en note, mais ce qu'il y a, oui, si, il y a une différence entre différents architectes. Et je voudrais souligner là, quand on dit à un étudiant, il faut faire une dissertation, le modèle dissertatif avec sa représentation mentale est un architecte conscient. Enfin, disons, au moins subconscient. Peut-être.
Qu'on aimerait qu'il ait été.
Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'acteur de l'écriture a conscience d'être placé dans une situation d'écriture particulière, conditionnée. Bon, alors que les architectes informatiques, en particulier, enfin, pour les gens qui n'ont pas de culture informatique particulière et qui n'ont pas développé une réflexion critique là-dessus, les architectes informatiques sont des architectes qui demeurent, c'est l'idéologie de la transparence, de la naturalité, etc., etc., dont je reparlerai cet après-midi, sont des architectes qui demeurent cachés, occulte, n'est-ce pas? Bon, c'est simplement quelques. Mais ce qui ne. Ce qui
on se prend une demi-heure encore?
Non, mais vas-y.
Oui, ça, c'est une question qui me paraît extrêmement intéressante, en fait. On pourrait entrer là, à partir de ça, sur la question de fond que j'ai évoquée très, très, très brièvement tout à l'heure, qui est la question de l'infraordinaire et de cette formule que j'aime bien, non pas parce que je l'ai trouvée, mais parce que je la trouve très heuristique, qui est cette idée de mémoire de l'oubli. Je vais prendre deux minutes pour vous expliquer ça, parce que c'est en plein développement, puis je l'aime bien, c'est en train de naître cette affaire, là, ça commence à être très sympa. Vous connaissez sans doute ce très très beau texte de Pérec, L'Infraordinaire, qui est en fait pas le texte d'origine de l'article, mais peu importe, puisqu'en fait il était sur l'opératoire et non pas sur la réflexion. En tout cas, au seuil... Non, toujours la petite collection de Maurice Hollander, la collection du XXIe siècle. Je vous conseille tout petit bouquin, petite merveille d'intelligence et de finesse, comme souvent chez Pérec, où Pérec explique, enfin en tout cas, dit, se propose comme champ de recherche l'infraordinaire, où il a cette phrase merveilleuse, « Questionnez vos petites cuillères ». J'adore. Où en fait il montre comment les objets du quotidien sont chargés d'un type de savoir qu'il convient d'interroger. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle l'infraordinaire. Alors bon, ça a été déployé depuis, on a beaucoup travaillé là-dessus, et je continue à travailler là-dessus, mais je dois publier un texte là-dessus sous peu. La notion d'infraordinaire est extrêmement importante dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, un usager lambda qui se trouve confronté du jour au lendemain à un architecte informatique est comme une poule devant un œuf carré. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc, il a nécessité absolue d'apprentissage. Et pour ça, d'itération, de répétition, d'itération à nouveau, de répétition, etc. etc., etc. L'acte d'apprentissage fabuleux, qui est cet acte de répétition permanente, d'itération, de renouvellement, de rappel, ce cycle extraordinaire qui fait que, à un moment donné, quand on apprend à lire ou à écrire, eh bien, on a conscience, ou en tout cas, on nous donne conscience que nous sommes en train d'apprendre quelque chose, qui est un acte fondamental, ce que tu disais par rapport à la disserte tout à l'heure. On a nécessité à prendre conscience du fait que la disserte est faite de telle fonction, de telle manière, pour pouvoir œuvrer au sein même de cet espace architectuel. Eh bien, pour l'écriture, la lecture, c'est pareil. Pour tous les apprentissages, quels qu'ils soient, on a nécessité à avoir un temps de conscience. Le phénomène que je suis en train de vous décrire très très brièvement, cavalièrement, je m'en excuse, mais très brièvement, c'est un phénomène évolutif. C'est pas quelque chose qui précisément, c'est ce qui fait sa difficulté, mais son intérêt. J'apprends à lire, j'apprends à écrire. Je sais que je suis en train d'apprendre à lire et à écrire. Bien. Et pour ça, il me faut du temps. Et pour ça, il me faut des répétitions. Et je vais pas revenir là-dessus. Et puis, au bout d'un moment, je mets en œuvre ce savoir. Je mets en œuvre ce savoir lire-écrire. La fameuse lettrure dont je parlais tout à l'heure. Hein, terme médiéval fabuleux. Je le mets en œuvre. Et puis, petit à petit, je m'aperçois, si j'y réfléchis, que je n'y réfléchis plus. Que ce savoir m'est, entre guillemets, je reprends ton terme parce que je le crois extrêmement juste, m'est, entre guillemets, naturel.
Il n'a rien de naturel du tout.
Il est proprement culturel, absolument culturel. Mais j'ai le sentiment qu'il m'est naturel. Pourquoi ? Parce que je l'ai complètement intégré. Je ne réfléchis pas à mon geste d'écriture lorsque je suis en train d'écrire. Je ne réfléchis pas à mon geste. Je ne suis pas réflexif lorsque je suis en train de lire. Et heureusement, parce que sinon je n'y arriverai pas. Et donc, on est devant un paradoxe extrêmement intéressant, qui est ce que j'appelle précisément la mémoire de l'oubli. À partir du moment où je suis en apprentissage et que je vais intégrer cet apprentissage en mémoire profonde, je vais avoir très rapidement nécessité de l'oublier pour être opératif au mieux. Alors, deux textes très beaux. Le premier, c'est celui de Merleau-Ponty. Enfin, ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais j'espère que bientôt, vous pourrez le lire dans un opuscule complet, parce que je suis en train de le mettre sur pied. Mais un très, très beau texte de Merleau-Ponty sur cette question-là, où dans la phénoménologie de... Merci de la perception, parce que j'étais parti sur l'esprit, mais c'était pas le même bonhomme. donc, de la perception, c'est repris en tel chez Gallimard, hein, donc c'est tout à fait accessible et parfaitement lisible, contrairement à ce que l'impression du bonhomme pourrait donner. C'est très, très, très lisible, Merleau-Ponty. Et c'est d'une très grande actualité, au demeurant. Et où il explique de manière très claire et très maligne comment, en fait, lorsque je suis en train de lire, le texte disparaît à mes yeux. Ben, c'est exactement ça que je suis en train de dire, hein. C'est-à-dire que Quignard a dit des choses merveilleuses là-dessus, dans les petits traités. On va retourner hein, aux bons auteurs, quand même, des fois. Je pense que c'est paradoxalement un des meilleurs théoriciens de la chose. Paradoxalement, ce n'est pas son objectif. Hein. Son objectif est d'écrire et de réfléchir et de créer une œuvre. Et je crois que c'est un des plus fines analystes que nous ayons de ces objets-là. Et quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes en instance d'oubli. Et vous avez oublié le fait que vous savez que vous êtes un fin connaisseur de la lecture. Et plus votre oubli sera profond, plus votre lecture sera déliée et opérante. Eh bien, c'est ça que j'appelle la mémoire de l'oubli. C'est qu'on a nécessité à mémoriser, d'où le phénomène évolutif. Dans mon apprentissage, j'ai nécessité à en avoir conscience. Et puis, petit à petit, j'ai nécessité à l'oublier. C'est ça, ce phénomène. Et c'est un très, très beau phénomène. Moi, je continue à être fasciné par ça. Je reste très gamin, moi. Je trouve que c'est c'est beau comme mouvement. Le mouvement d'apprentissage est quelque chose qui continue à me fasciner. Je trouve que c'est un très, très beau mouvement. C'est ce qui nous permet de rester complètement vivant. Et alors, regardez ce paradoxe. On a nécessité à oublier la mémoire profonde qui nous constitue au savoir. Et là, on est sur une vraie, vraie interrogation. Hein. Et alors, en fait, si je tire cette remarque que tu avais tout à l'heure vers les médias, on s'apercevra qu'on a nécessité à, d'où le lien que je fais avec ce que j'ai dit tout au début, nécessité à oublier un certain nombre de choses, et notamment le fait que je suis face à un média, car je veux aller vers l'image. Et donc, le publicitaire, c'est pas complètement idiot ce qu'il est en train de faire. Il s'inscrit dans cette mémoire de l'oubli du média. Parce que ce qui l'intéresse, lui aussi, c'est pas tellement l'objet technique, c'est la relation. Finalement, c'est qu'un bonhomme. Ça me le rend rassurant, quelque part, quand même. Et bien, vous voyez, on est dans ce lien-là. Et si on l'analyse de ce point de vue-là, du coup, on comprend un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer. Pas nécessairement d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue anthropologique. Et là, on est sur des questions qui sont... Mais j'adhère complètement à ta remarque. Elle est nécessaire, cette conscience. Elle est indispensable. Indispensable. C'est la nécessité. Cette émergence de la conscience est la condition même de notre liberté. Je crois. Fondamentalement. Ah oui, mais je ne sais pas quels sont les horaires du ouvrant. Ah là, on a un peu joué avec les cadres instituants et l'architecte temporel.
En plus, je pense que la réponse devra être très longue, donc je ne peux peut-être que poser la question. Oui. Vous avez peu fait allusion au rapport temporel qu'instaure ce nouvel outil, enfin ce rapport temporel à l'écriture. Vous y avez fait allusion tout à l'heure en répondant. En disant que l'écriture, c'était donc ce que moi j'appelle ailleurs, à un autre moment. Et je trouve que justement ce nouvel outil, et je m'excuse, hein, j'en ai déjà parlé il y a deux jours, instaure un nouveau rapport qui est ailleurs mais au même moment. Et donc un rapport oralisé à l'écrit ou un mélange ou un genre hybride. Et j'ai en tête un travail d'une de mes étudiantes qui m'a rendu un travail qu'elle avait réalisé sur ordinateur, mais imprimé. J'ai reçu la feuille imprimée, un rapport de stage. Et elle terminait en disant « J'ai oublié de vous dire, c'était des enfants de telle classe. »
J'aime bien, moi.
J'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui change au niveau vraiment anthropologique. Vous parliez de structuration mentale.
Ouais.
Je me suis dit, mais c'est fou. Elle se rend compte de ça, elle oublie qu'elle est à l'écrit, elle est comme si elle était en chat.
Ouais.
Elle me parle à travers l'écrit, elle n'écrit plus. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc voilà, je voudrais vous poser la question de ce rapport-là au temps.
Et je crois qu'on va croiser un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes. La première remarque, c'est qu'on est sur l'écrit. C'est clair, c'est net et c'est précis. C'est pas de l'oral. Nos objets, nos dispositifs sont des dispositifs d'écriture-lecture. Ça, c'est clair. En revanche, et ça, votre remarque me paraît extrêmement intéressante de ce point de vue-là, que l'on... Alors, ça va être croisé avec ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on est dans un phénomène d'apprentissage, de ce qu'on disait tout à l'heure, tout au début. On est dans un phénomène d'apprentissage. On est à la naissance d'une culture que Milad appelle la numératie. À juste titre, je trouve que c'est malin, parce que sortir du rapport informatique-écriture pour entrer dans la culture de la numérique, on est en train de le vivre, ça. C'est très récent, hein, on met les premiers pas dedans. Hein. Donc, on a des hybridations, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. En revanche, effectivement, de manière très concrète, si on essaye d'appréhender ces dispositifs de manière phénoménologique, nous sommes sur des dispositifs d'écriture-lecture. Bien. Mais, en même temps, nous convoquons des savoirs qui sont des savoirs, l'exemple de votre étudiant, c'est pile poil, quoi, qui sont des savoirs qui viennent, qui ne sont pas nécessairement accompagnés et dont on n'a pas nécessairement mis en place, et pourquoi pas, après tout, mettre de l'oralité dans l'espace de l'écriture. Sauf que ça n'est plus de l'oralité, on s'entend bien. C'est de l'écrit. Sa structure textuel, puisqu'il s'agit d'un texte. Sa structuration et sa pensée... Moi, je lui dirais tout simplement... C'est gentil, ça. Mais c'est ce que peut me dire un doctorant qui vient me remettre sa thèse et qui me dit... j'ai encore ça à faire. Eh bien, j'ai dit, c'est bien, mon grand. On le remet à quel niveau? Premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. C'est une question de temps, là, pour le coup. Mais en fait, si j'ai oublié de dire quelque chose, que c'est fondamental, il faut que je le mette en amont. Donc, je reprends mon écrit, je le redonne à lire. Donc là, en fait, c'est un apprentissage d'une modalité de présentation d'un type de travail. C'est qu'en fait, elle n'est pas entrée encore dans la compréhension du travail qu'elle est en train de produire. Et donc, des cadres, et ben, du coup, de l'architecte, du mémoire, de l'architecte, etc. Parce qu'elle n'a pas compris qu'à la fin, je ne suis pas en train de donner les prémices. Ou alors, j'ai un souci. Bon, je ne vais pas rester sur la métaphore de tout à l'heure, mais bon. Donc, en fait, là, ça, c'est un premier temps. Ah, recoupure. Ça, c'est peut-être la fin, finalement. Si celui-là marche... Ouais, allez, va, je passe sur le siège à côté. Si celui-là marche, ça m'évite de repasser sous la table, ce qui peut être quand même un peu ambigu.
Si je considère le fait que j'ai des pratiques qui par ailleurs sont liées par exemple au chat, au mail, à n'importe quel type de pratique que je pourrais avoir sur Internet, je vais avoir des hybridations par la force des choses. Et donc c'est le produit final que je vais avoir qui va être le lieu de concrétisation de cette hybridation. Mais de toute évidence, et ça c'est important à dire et redire, je n'enlèverai rien au fait que pour le faire, je suis passé par un écran, un clavier, et que je suis dans une pratique de scription. La scription n'est pas tout à fait exacte puisque scription est liée au geste, mais en tout cas une pratique d'écriture, ça c'est clair. Donc je ne suis pas dans l'oralité, ou dans l'oralisation, pardon, mais bien effectivement dans une pratique d'écriture. En revanche, oui, et ça c'est intéressant, je vais convoquer des usages qui sont des usages qui n'ont pas nécessairement été accompagnés d'un point de vue éducatif et de l'apprentissage, et qui paraissent de l'évidence, entre guillemets, l'infraordinaire, l'évidence, et qui n'en sont pas, parce que nous sommes tout le temps dans des pratiques qui sont des pratiques sociales, et donc des pratiques cadrées. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais est-ce que ça répond à peu près à votre question? Enfin, j'ouvre un champ. Il y a la notion du temps. Il n'y a pas le temps de parler du temps. Alors, le temps, enfin, la dimension temporelle est une dimension qui est profondément bouleversée par rapport à Internet. Ou plus exactement, je devrais dire l'inverse, parce que c'est complètement idiot ce que je suis en train de dire là. Internet inscrit la dimension temporelle comme une des dimensions constitutives de sa production. Et donc, on a un jeu qui se passe, par exemple, par rapport aux médias. On a une reconfiguration de l'ensemble des pôles médiatiques liés à cette temporalité. Bien. Avec le mythe. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est à nouveau sur un mythe, mais dans un premier temps, on était sur le mythe de soit de l'immatériel, soit de le mythe de la transparence que tu évoquais tout à l'heure. Là, ce mythe, c'est le mythe du temps réel. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la notion de temps réel, c'est une notion technique qui a été précisément produite par les informaticiens notamment pour, dans les codes, dans l'écriture informatique pour avoir des actions temporalisées dans le cadre de la mécanisation d'un certain nombre de tâches. C'est-à-dire qu'on voulait avoir le temps qui, et en fait, c'est absolument pas du temps réel. Bien. Et en tout état de cause, le temps réel, c'est une notion qui est un imaginaire absolu. Tous les philosophes vous le diront avec une grande gentillesse. Parce que c'est une notion extraordinairement complexe. Il y a un leurre derrière de la simultanéité. Et donc, en fait, ce temps réel, c'est comme si... à partir du moment où j'envoie quelque chose, je suis désolé, mais mon lecteur, il ne l'a pas en temps, entre guillemets, dit réel. C'est faux. Alors ça, c'est autre chose. Il y a le mythe de la simultanéité et il y a le phénomène de l'accélération. Ça, oui. Et ça, c'est une présence qui est, pour le coup, particulièrement problématique, mais qu'il faut apprendre à... Alors là, pour le coup, on a un travail d'apprentissage auprès des étudiants et des élèves qui est coquet, parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement lourds, derrière. Bien sûr. Alors là, le fait d'intégrer... Mais si on réfléchit bien, je reprends mon affaire de courrier. Mon système socio-technique, la temporalité est éminemment présente. Je prends ma feuille de papier, je la choisis, je m'adresse à quelqu'un de particulier, je choisis ma feuille de papier, parce que j'ai envie de ça. Je commence à écrire, je chiffonne, je la jette, je la reprends, j'écris ma lettre, je réfléchis, je la laisse mûrir. Je prends une enveloppe, j'écris, je rédige l'adresse, je glisse ma feuille dans mon enveloppe. Je la ferme, je la cachette. J'ai cherché un timbre. Je colle mon timbre. Puis, il se passe du temps. Je jette la lettre dans la boîte. Mon temps s'arrête. tout ce temps-là fait partie de mon élaboration. Eh bien, dans l'activité d'écriture-lecture, oui, j'ai cette temporalité. C'est une temporalité beaucoup plus grande. Alors, ma lettre circule, je ne dis pas combien de temps, parce que là, c'est de l'ordre de l'indécidable, à travers les circuits de la distribution, arrive chez mon destinataire, dans la boîte, mon destinataire prend la lettre, l'ouvre, ou la voit, l'ouvre, l'ouvre pas. Toute cette liberté est possible. La décachette et va l'ouvrir dans la situation qui lui convient. Toute cette temporalité, elle existe, mais elle est beaucoup plus longue. Elle est faite de rituels. Et ça, c'est l'apprentissage de notre culture qui nous amène à ça. Et elle est liée à un dispositif qui est un dispositif dans lequel interviennent, de la même manière que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, les centrales hydroélectriques, nucléaires et autres qui entrent en ligne de compte pour produire l'électricité, qui, etc., etc. Et bien là, j'ai un dispositif socio-technique fait intervenir des corps de métier, des gens qui sont payés, etc., etc., etc. Et puis ma temporalité, alors elle est plus longue, mais elle est présente. Elle est éminemment présente. Avec des temps d'arrêt, qui sont les temps de fixation du texte, j'ai les mêmes temps d'arrêt. Pas les mêmes, mais j'ai des temps d'arrêt de ce texte qui m'est donné à lire sur mon écran. Une fois que mon scripteur m'a envoyé mon mail, il ne revient pas dessus. Je le lis, il est là son texte. Et son texte n'est pas lié au temps, là. J'ai le temps de le lire, de le méditer, de le reprendre. Alors, effectivement, le système technique me permet de le renvoyer tout de suite et de faire des conneries parce que je n'ai pas réfléchi assez longtemps. Par exemple, tu sais combien de fois il y a des problèmes derrière parce que je n'ai pas réfléchi à l'implication de... Eh bien, si on réfléchissait au système de... j'allais dire, l'écosystème de l'écriture et de l'envoi de ma correspondance, et qu'on le pense par rapport au dispositif technique que nous avons sous les yeux, eh bien, en fait, du coup, nos élèves... nos étudiants seraient peut-être un petit peu plus attentifs à un certain nombre de réactions, dont celles que vous êtes en train d'évoquer, en leur faisant comprendre que la temporalité des présences, elle, alors là, vous avez entièrement raison, elle est complètement accélérée, et du coup, elle va trop vite. Mais c'est même les politiques qui ne réfléchissent plus, mais qui agissent, puisque c'est la règle. Donc, allons à l'inverse. Réfléchissons avant d'agir. Et apprenons à réfléchir, on aura tout bénéfice à long terme. Enfin, il me semble.